Chapitre 7. Étape 4. Les petits outils au grand pouvoir. Si tu veux vivre heureux, sois-le. Proverbe chinois. Je vais maintenant vous présenter plusieurs pistes supplémentaires pour vous aider à améliorer davantage votre bien-être et vous débarrasser de vos crises d'angoisse et de panique. Contrairement aux conseils prodigués dans les trois premières étapes, ils ne sont pas classés dans un ordre particulier et vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous. Cependant, en vous servant systématiquement de ces quelques outils, sachez que vous mettez toutes les chances de votre côté pour améliorer et stabiliser votre état. Vous constaterez qu'ils sont également très simples à mettre en œuvre. Alors, pourquoi vous en priver? Mon avis est que vous devriez les utiliser tous durant au moins 2 semaines, sauf l'un d'entre eux qui est optionnel et que je vous indiquerai. Si l'un de ces conseils ou un exercice ne vous convenait pas, arrêtez de l'utiliser, mais donnez-lui au moins sa chance. Ne les jugez pas inutiles ou idiots. Ils ont leur rôle à jouer dans votre retour à une vie normale. Ils sont au nombre de 6. 1. Tenez un journal intime. L'objectif est d'évacuer votre stress et de vous libérer d'un poids. Vous avez, au cours d'une étape précédente, repéré les causes de vos crises d'angoisse. Il est important à présent de s'en débarrasser. Pour cela, rien ne vaut l'écriture d'un journal intime. Il est silencieux et restera muet comme une carpe. Tous vos secrets y seront bien gardés. Vous avez à votre disposition 2 options. La première consiste à vous acheter un cahier et à y écrire. La deuxième à utiliser votre PC ou votre tablette. Sur papier. Je vous conseille de brûler ou de passer au destructeur de papier les feuilles que vous aurez écrites. Sinon, vous aurez toujours cette pensée envahissante que quelqu'un pourrait les lire, ce qui vous empêchera de vous libérer totalement avec franchise et sans tabou. Sur PC, tablette ou smartphone. Le risque est moins grand d'y voir ses secrets lus par quelqu'un d'autre. Mettez un mot de passe ou procurez-vous un logiciel spécialement conçu pour cette tâche, que vous trouverez aisément sur Internet. Trucs et astuces. Règles à suivre pour la bonne tenue d'un journal intime. Ne vous relisez jamais. Personne d'autre que vous ne doit lire votre journal intime. N'ayez pas la tentation de le partager avec vos proches, y compris votre meilleur ami, jusqu'à la mort. Les fautes d'orthographe et de grammaire n'ont aucune importance. De même que le style et la syntaxe. Il ne s'agit pas d'un concours d'écriture, mais de libérer votre inconscient. Pratiquez tous les jours, tant que vous souffrez de crises d'angoisse et de panique. Vous pouvez écrire à des heures différentes chaque jour. La durée est libre. La première fois, vous aurez sans doute beaucoup à dire. Il n'est pas rare les premières fois d'écrire pendant au moins 30 minutes. Au fil du temps, vous aurez moins de choses à exprimer. L'important à ce stade est d'écrire sans vous censurer sur tout ce qui vous passe par la tête, en particulier ce qui vous encombre l'esprit. Ne jugez pas ce que vous écrivez. La moindre phrase a son importance. Vous êtes l'unique lecteur d'un livre que vous ne relirez jamais plus. Alors à quoi bon commencer à cogiter sur le pourquoi du comment de vos écrits ? Jetez vos mots sur le papier ou le clavier sans vous soucier du reste. Ce journal intime vous accompagnera également une fois guéri. Ayez le réflexe, au moindre tracas, de vous confier à ce compagnon discret qui ne vous jugera jamais. Essayez. Vous verrez que vous vous sentirez plus léger ensuite, comme délivré d'un poids. Rappelez-vous simplement ce détail très important. Vous en êtes le seul lecteur. 2. Méditer. Oui, je sais, c'est très à la mode. Il y a une raison. C'est une technique efficace. La méditation a des effets très positifs sur le stress, et donc sur votre état de souffrance. Vous trouverez plus loin un scénario pour vous aider à concilier relaxation et méditation. Ne vous inquiétez pas. La technique est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. La méditation demande toutefois de la persévérance. Comme vous êtes motivé pour vous débarrasser de vos crises d'angoisse, ça ne posera aucun souci. Commencez par créer une ambiance zen avec des bougies, de la musique douce. Coupez votre portable, la télé, la radio et autres perturbateurs. Si vous vivez à plusieurs sous le même toit, prévenez que vous ne voulez pas être dérangé pendant 15 minutes. Si vous prenez goût à la méditation, vous êtes libre d'augmenter la durée de vos sessions. Cependant, Dans ces phases d'attaque où vous combattez de front vos crises, je vous suggère de ne pas privilégier l'un de mes conseils en particulier. Par exemple, ne pratiquez pas 30 minutes de sport par jour en vous disant que la méditation peut bien attendre. Ces deux activités ont chacune un rôle à jouer dans votre bien-être. Pensez à une construction en Lego. Toutes les pièces sont nécessaires, même si certaines sont moins jolies ou agréables à poser que d'autres. Il vaudrait mieux, dans cet exemple, pratiquer 15 minutes de sport et 15 minutes de méditation. Méditation en pratique. Asseyez-vous confortablement, en tailleur ou sur une chaise. Ne vous faites pas mal. Les puristes vous diront qu'il vous faut apprendre à transcender votre souffrance si la position est douloureuse. Je pense que vous souffrez bien assez comme ça. Il sera toujours temps, une fois vos crises d'angoisse disparues, de méditer en tirant un peu sur vos articulations et sur vos muscles. Si vous choisissez une chaise, l'assise doit être ferme. Si vous préférez la position en tailleur, je vous conseille de mettre un coussin ferme également sous vos fesses pour vous surélever. Ce sera plus confortable. Tenez-vous bien droit. Cela doit vous rappeler un conseil que j'ai déjà donné, n'est-ce pas? Vous tenir droit vous permet de mieux respirer. Votre colonne est donc rectiligne, tirée vers le haut. Vos mains sont soit posées sur vos cuisses, paume vers le bas ou vers le haut, soit positionnées l'une dans l'autre, paume vers le haut. Vos yeux sont fermés. Au début de votre pratique, je vous conseille de les maintenir clos pour ne pas vous laisser distraire par votre environnement. Évitez d'ailleurs de méditer au milieu de votre salon pendant que les enfants jouent, que votre mari passe l'aspirateur ou que la télévision fonctionne. Méditez dans le calme. Lorsque vous prendrez goût à la méditation, vous pourrez laisser vos paupières mi-closes. Votre respiration est tranquille et zen. Prenez de petites inspirations par le nez et expirez en soufflant doucement par le nez ou par la bouche. Soyez le plus naturel possible. Ne dépassez pas 5 secondes à l'inspiration. Concentrez-vous sur votre souffle. Ayez conscience que vous respirez. Le conseil a l'air évident, mais le fait de respirer est tellement automatique que nous n'y prêtons aucune attention, sauf si nous sommes gênés. Toux, rhume, etc. Prenez conscience que vous respirez. Dites-vous mentalement à chaque respiration sans forcer « J'inspire, l'air monte, j'expire, l'air descend. » Laissez les pensées parasites arriver. C'est là que la méditation prend tout son sens. Elle va vous permettre de rester dans l'instant présent. Vous avez sans doute mille et une choses plus importantes à faire que de méditer. Telle facture à régler, un tel à appeler, regarder vos emails, ranger des papiers ou les chercher. Bref, votre esprit va se charger de vous trouver toutes les excuses possibles pour ne pas vous concentrer sur votre souffle. C'est normal. Lorsque vous avez une pensée parasite, laissez-la venir. Ne la chassez pas. Concentrez-vous doucement à nouveau sur votre respiration. Ne vous énervez pas, ne culpabilisez pas. Les pensées parasites font partie de l'exercice. On imagine très souvent à tort que la méditation consiste à ne penser à rien. Bon courage. La méditation permet au flot de pensées de ralentir, et certainement pas de vous lobotomiser. Au début, pour certains, ce sera difficile de rester en place, de se concentrer et d'évacuer les pensées parasites. Un jour viendra où vous sentirez clairement l'évolution et prendrez un réel plaisir à pratiquer. Même le Dalai Lama a dû passer par là. Persévérez. Cet exercice permettra de ralentir le flot incessant de pensées inquiétantes qui habitent votre esprit en ce moment. Pratiquez une fois tous les deux jours. Ce peut être à des heures différentes. 3. Prenez du Rescue Fleur de Bac. Ces élixirs floraux du nom du médecin anglais qui les composa, Edward Bach, à la fin du XVIIIe siècle, ont pour objectif d'harmoniser votre état d'esprit. Elles existent sous différentes formes. Goutte à avaler, petite pastille à sucer, baume ou encore chewing-gum. Évitez cette forme-là, nous verrons pourquoi un peu plus tard. Il existe plusieurs fleurs de Bach. Une seule de ces potions va attirer notre attention. Le Rescue, le sauvetage en français. En prise immédiate, le Rescue a pour objectif de contrecarrer les effets négatifs d'une émotion forte. Tentez l'expérience dès que vous sentez votre angoisse monter. Le produit n'est pas cher. Cela vaut le coup d'essayer. Il existe, à mon sens, un seul danger à cette solution. Si vous ne comptez que sur ce produit et que vous êtes en rupture ou que vous ne le trouvez pas au fond de votre poche ou de votre sac, vous allez faire une crise d'angoisse. Que ce soit bien clair, le Rescue doit être utilisé en complément et non comme solution unique à vos crises d'angoisse. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas sur vous, comme un gris-gris, que vous devrez faire une crise. Attention aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux enfants. Bien lire la notice d'utilisation. 4. Soyez amour. L'amour, à ses différents stades, des premiers émois aux ébats passionnés, stimule la production d'hormones du plaisir et du désir qui sont de puissants antidotes aux hormones du stress. Phényléthylamine, ocytocine, dopamine, endorphine, sérotonine, testostérone, phéromones, etc. se plient en quatre pour vous rendre heureux. Être amoureux, c'est aussi se sentir soutenu et oublier un peu ses crises d'angoisse. Il n'est pas seulement question, loin de là, de sexualité, de libido ou même de vie de couple. De manière générale, soyez dans l'amour et restez positif. Si vous êtes célibataire, rien ne vous empêche d'adopter ce comportement et d'en faire un mode de vie. Si vos crises d'angoisse sont le résultat d'une séparation, sachez qu'être amour signifie aussi faire le bien autour de soi, tout simplement. Observez bien certains lamas tibétains qui portent sur leur visage serein l'amour de l'autre et la compassion. Le Dalai Lama semble incarner à lui seul cet amour de son prochain, malgré les nombreux problèmes que rencontre son peuple. Ils ont un état d'esprit que nous devrions tous prendre en modèle. Lorsque l'on souffre, on ne pense plus qu'à nos tourments. C'est humain. Voyez maintenant le monde à l'envers. Vous avez mal et pourtant, vous vous occupez du bien-être de ceux qui souffrent. Nous avons vu qu'il s'agissait avant tout de commencer par vous aimer, en éprouvant de la compassion pour tout votre être et toute votre âme. Rien ne vous empêche ensuite, très rapidement, d'être dans l'amour de l'autre. 5. Et un psy? C'est le conseil optionnel que j'évoquais plus tôt. Un psychothérapeute ou un psychiatre peut vous aider à dénouer une situation compliquée qui a engendré un tel stress que vous avez développé des crises d'angoisse et de panique. Si vous pensez que seuls les fous les consultent, sachez que c'est loin d'être le cas. Parler à une tierce personne qui est à la fois neutre et étrangère me semble une bonne idée. Le saviez-vous? La différence entre un psychiatre et un psychothérapeute? Le premier est médecin. Ses consultations sont donc remboursées par la Sécurité sociale. Il a la possibilité de vous délivrer des médicaments. La durée de l'entretien oscille entre 15 et 30 minutes. Le second a l'avantage d'avoir, en général, un panel très large de solutions non médicamenteuses. Ses consultations durent environ une heure, mais ne sont pas remboursées. Ne vous forcez pas à les consulter, mais si vous avez, comme je le pense, besoin de parler, n'hésitez pas. 6. Suivez une thérapie énergétique. C'est le moment de prêcher pour ma paroisse. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, me direz-vous? Si vous pratiquez une activité d'origine extrême orientale ou indienne, vous savez déjà de quoi je parle. Pour les autres, je vais tenter une explication rapide et simple. Nous possédons tous un corps énergétique, une sorte de fluide invisible où circule le chi, l'énergie vitale. On retrouve ce terme dans le qigong par exemple, dans le tai chi chuan ou encore dans l'aïkido. Le manque d'harmonie de ce corps énergétique est, selon la tradition de certaines cultures, à l'origine de nos défaillances physiques et psychiques. Travailler sur ce corps énergétique permet de retrouver l'équilibre, de prendre du recul par rapport aux événements stressants, et donc de retrouver progressivement un mieux-être. La thérapie énergétique prend aussi en compte vos situations passées, présentes et futures, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Afin d'évacuer vos crises d'angoisse, le thérapeute doit savoir ce que vous avez vécu pour travailler avec plus de précision. Je commence toujours par effectuer 2 séances à 2 semaines d'intervalle. Ensuite, la personne me rappelle 3 semaines après pour me donner des nouvelles et faire le point sur son état. Ce laps de temps lui permet également de pratiquer les exercices contenus dans ce livre. En résumé, Nous voici au terme de la quatrième étape, dont voici les six principales clés à retenir. 1. Tenez un journal intime. Tous les jours, inscrivez vos doutes, vos peurs et vos attentes sans tabou. Écrivez également vos joies et vos réussites. 2. Méditez. Tous les deux jours pendant 15 minutes, accordez-vous ce moment de sérénité. En tailleur ou assis, concentrez-vous sans forcer sur votre souffle. 3. Prenez le Rescue Fleur de Bac. Préférez la version goutte ou pastille, à utiliser en complément des autres exercices. Le jour où vous l'avez oublié, ne vous inquiétez pas et appliquez les autres exercices. 4. Soyez amour. Posez un regard positif et plein de compassion, d'empathie et d'amour sur vous-même et sur les gens qui croisent votre route. Un ciel gris peut être magnifique. Tout dépend de votre point de vue. 5. Consultez un psy. Si vous en ressentez le besoin, sautez le pas. Parler à une tierce personne étrangère qui ne vous jugera pas fait parfois du bien. 6. Suivez une thérapie énergétique. Pour vous permettre de prendre du recul et de mieux comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, le thérapeute utilisera des concepts vieux de plusieurs milliers d'années dans la sérénité, l'écoute et la compassion pour votre bien-être.